Chapitre 3, quatrième partie. Mardi 16 octobre. Réveil au petit jour pour faire lever et repartir notre équipage. À l'aube froide et magnifique, à travers la limpidité d'un ciel rose, le soleil surgit et rayonne sans chaleur sur la plaine d'herbage, sur le lieu désert où nous venons de dormir. Et tout de suite je saute à terre, pressé de marcher, de m'agiter, dans un besoin irréfléchi de mouvement et de vitesse. Horreur, à un détour du sentier de halage, courant à l'étourdi sans regarder à mes pas, je manque de marcher sur quelque chose qui gît en forme de croix. Un cadavre, nu, aux chairs grisâtres, couché sur le ventre, les bras éployés, à demi enfoui dans la vase dont il a pris la couleur. Les chiens ou les corbeaux l'ont scalpé, ou bien les autres chinois pour lui voler sa queue, et son crâne apparaît tout blanc, sans chevelure et sans peau. Il fait de jour en jour plus froid à mesure que nous nous éloignons de la mer et que la plaine s'élève par d'insensibles pentes. Comme hier, les jonques passent, redescendent le fleuve à la file en convoi militaire gardé par des soldats de toutes les nations d'Europe. Ensuite reviennent de longs intervalles de solitude, pendant lesquels rien de vivant n'apparaît plus dans cette région de millet et de roseaux. Le vent qui souffle, de plus en plus âpre malgré le resplendissant soleil, est salubre, dilate les poitrines, double momentanément la vie. Et dans l'éternel petit sentier qui mène à Pékin, sur la gelée blanche, entre les sorgots et le fleuve, on marche, sans fatigue, même avec une envie de courir, en avant des Chinois mornes qui, penchés sur la cordelle, traînent toujours notre maison flottante en gardant leur régularité de machine. Il y a quelques arbres maintenant sur les rives, des saules aux feuilles puissamment vertes d'une variété inconnue chez nous. L'automne semble ne les avoir pas effleurés et leurs belles couleurs tranchent sur la nuance rouillée des herbages et des sorgots mourants. Il y a des jardins aussi, jardins à l'abandon autour des hameaux incendiés. Nos Chinois y détachent chaque fois quelqu'un des leurs, en maraude, qui rapporte dans la jonque des brassées de légumes pour les repas. Haussmann et Renaud, en passant dans les maisons en ruine, ramassent aussi quelques objets qu'ils jugent nécessaires à l'embellissement de notre logis. Un petit miroir, des escabeaux sculptés, des lanternes, même des piquets de fleurs artificielles en papier de riz qui ont dû orner la coiffure de dames chinoises massacrées ou en fuite et dont ils décorent naïvement les parois de la chambre. L'intérieur de notre sarcophage prend bientôt, par leurs soins, un air de recherche tout à fait barbare et drôle. C'est étonnant, du reste, combien on s'habituerait vite à cette existence si complètement simplifiée de la jonque. Existence de saine fatigue, d'appétit dévorant et de lourd sommeil. Vers le soir de cette journée, les montagnes de Mongolie, celles qui dominent Pékin, commencent de se dessiner en petites découpures extra-lointaines tout au ras de l'horizon, tout au bout de ce pays infiniment plat. Mais le crépuscule d'aujourd'hui a je ne sais quoi de particulièrement lugubre. C'est un point où le Peiho sinueux, qui s'est rétréci d'heure en heure à chacun de ses détours, semble n'être plus qu'un ruisseau entre les deux silencieuses rives, et on se sent presque serré de trop près par les fouillis d'herbages, recèleurs de sombres choses. Et puis le jour s'éteint dans ses nuances froides et mortes, spéciales au soir des hivers du Nord. Tout ce qui reste de clartés éparses se réunit sur l'eau, qui luit plus que le ciel. Le fleuve, comme un miroir glacé, reflète les jaunes du couchant. On dirait même qu'il en exagère la lueur triste entre les images renversées des roseaux, des sorgots monotones et de quelques arbres en silhouette déjà noire. L'isolement est plus immense qu'hier. Le froid et le silence tombent sur les épaules comme un linceul. Et il y a une mélancolie pénétrante à subir le lent enveloppement de la nuit en ce lieu quelconque d'un pays sans asile. Il y a une angoisse à regarder les derniers reflets des roseaux proches qui persistent encore à la surface de ce fleuve chinois, tandis que l'obscurité, en avant de notre route, achève d'embrouiller les lointains, hostiles et inconnus. Heureusement, voici l'heure du souper, heure désirée, car nous avons grand faim. Et dans le petit réduit que nous fermerons, je vais retrouver la lumière rouge de notre lanterne, l'excellent pain de soldat, le thé fumant servi par Toum et la gaieté de mes deux braves serviteurs. Vers 9 heures, comme nous venions de dépasser un groupe de jonques pleines de monde et purement chinoises, jonques de maraudeurs vraisemblablement, des cris s'élèvent derrière nous. Des cris de détresse et de mort, d'horribles cris dans ce silence. Toum, qui prête son oreille fine et comprend ce que ces gens disent, explique qu'ils sont en train de tuer un vieux parce qu'il a volé du riz. Nous ne sommes pas en nombre et d'ailleurs pas assez sûrs de nos gens pour intervenir. Dans leur direction, je fais seulement tirer en l'air 2 coups de feu qui jettent leur fracas de menace au milieu de la nuit. Et tout se tait. Comme par enchantement. Nous avons sans doute sauvé la tête de ce vieux voleur de riz, au moins jusqu'à demain matin. Et c'est la tranquillité ensuite jusqu'au jour. À minuit, amarrés n'importe où parmi les roseaux, nous nous endormons d'un sommeil qui n'est plus inquiété. Grand calme et grand froid, sous le regard des étoiles. Quelques coups de fusil au loin, mais on y est habitué. On les entend sans les entendre, ils ne réveillent plus. Mercredi 17 octobre. Levé à l'aube, pour aller courir sur la berge dans la gelée blanche, aux premières lueurs roses, et bientôt au beau soleil clair. Ayant voulu prendre un raccourci à travers les éternels champs de sorgho, pour rejoindre plus loin la jonque obligée de suivre un long détour du fleuve, nous traversons au soleil levant les ruines d'un hameau où gisent d'affreux cadavres tordus. Sur leurs membres noircis, la glace déposée en petits cristaux brille comme une couche de sel. Après le dîner de midi, quand nous sortons du sarcophage demi-obscur, nos Chinois nous indiquent de la main l'horizon. Tongcheou, la ville de la pureté céleste, est là-bas, qui commence d'apparaître. Grande muraille noire surmontée de miradors, tour étonnamment haute et frêle, de silhouettes très chinoises à 20 toitures superposées. Tout cela reste lointain encore, et les premiers plans autour de nous sont plutôt effroyables. D'une jonque échouée sort un long bras de mort aux chairs bleuies, et des cadavres de bestiaux, qu'emporte le courant, passent en cortège à nos côtés, tout gonflé et sentant la peste bovine. On a dû aussi violer par là quelques cimetières, car sur la vase des berges, il y a des cercueils éventrés, vomissant leurs os et leur pourriture.